Bonjour et bienvenue dans le podcast 507 heures, le podcast qui met en lumière les métiers de l'ombre du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Laurie, je suis comédienne et aujourd'hui on s'intéresse au métier de troisième assistant réalisatrice. Et pour cela, je suis avec Barthélémy Auguin. Barthélémy, tu exerces ce métier en France et tu travailles le plus souvent pour de la fiction. Tu es également auteur, réalisateur et tu es adhérent à la Maison du Film. Salut Barthélémy.
Hello.
Comment ça va?
Ben ça va très très bien.
Ouais, pas trop stressé?
Non, ça va, ça va. Je me sens bien entouré.
Super. Est-ce que quand tu étais à l'école de troisième assistant réel, c'est ce que tu voulais faire plus tard?
Ben absolument pas, parce que je ne savais même pas que ce métier existait. Enfin, en tout cas, quand j'étais enfant. Mais par contre, le cinéma, ça a toujours été un truc qui m'a plu et que je visais, quoi.
Ouais.
Ouais.
T'es allé jusqu'au lycée? Est-ce que t'as fait des études particulières?
Non, ouais, j'ai pour le coup un parcours scolaire classique jusqu'au lycée. Et ensuite, c'est après le lycée que ça a été un peu plus compliqué et aléatoire parce que j'ai mis un peu de temps avant de trouver comment atteindre le métier du cinéma. Et j'avais pas forcément non plus une famille qui avait très envie que j'aille dans ce milieu-là. Donc, donc il a fallu un peu batailler. Et voilà. Mais j'y suis aujourd'hui.
T'as fait quoi? T'as fait une école, quelque chose comme ça?
Moi, je viens du théâtre, du coup. J'ai fait le conservatoire et j'ai fait une licence d'histoire à côté. Et ensuite, j'ai fait un BTS audiovisuel en images. Donc, toucher un peu. Et ensuite, c'est au gré des projets, en travaillant, que je suis arrivé sur les plateaux comme troisième assistant à mise en scène.
À Paris?
J'ai fait ça à Paris. Okay. Enfin, moi, je viens de Vendée, donc j'ai fait le conservatoire en Vendée, à Rennes. Et ensuite, c'est à Paris que j'ai fait mon BTS.
Ok. Tu as le statut d'intermittent?
J'ai le statut d'intermittent, oui.
Ça a été dur de l'avoir ou pas du tout?
La première année, oui. Après, moi, des expériences que j'avais autour de moi, je savais que la première année, c'était toujours difficile parce qu'on n'a pas forcément les contacts. C'est compliqué d'enchaîner aussi des projets longs. Puis il y a toujours cette phase de commencer en tant que stagiaire aussi, qui est du coup un statut aussi un peu particulier, qui ne nous permet pas de valider les heures de travail qu'on fait. Enfin, ça ne compte pas pour l'intermittence. Mais après... Je sais que la deuxième année, j'avais très envie de l'avoir. Donc là, je me suis un peu obstiné et à faire aussi des choses qui étaient complètement, très différentes de ce que j'avais envie de faire sur les plateaux, et ce qui m'a permis de l'avoir. Donc, je sais que j'ai fait beaucoup de choses aussi avant d'être troisième assistant à mise en scène.
Tu veux dire que tu as vu beaucoup de métiers de plateau?
Ouais, j'ai été électro, assistant cam, auxiliaire à la régie. Et puis après, un peu de déco, un peu de... Enfin, tout ça, quoi. Et notre driver aussi. J'ai aussi fait les livraisons sur les plateaux, là. Donc, passé ma vie dans les camions. j'ai fait tout ça.
Ça te permet de savoir un peu ce que tout le monde fait aussi.
Ouais. Ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper enrichissant d'avoir une vision assez large de ce qu'est... de ce que sont les métiers du cinéma. Mmh. Et du coup, d'avoir aussi une plus grande conscience des problématiques et enjeux à dans chaque département. Et je trouve que, pour le coup, il y a presque au remède de l'humain à des endroits techniques, quoi. Parce que, pour le coup, on a tous des prérogatives à nos postes, quoi. Mais le fait de les avoir éprouvées, je trouve que ça revient à mettre de l'émotion et donc de l'humain. Et ça, je suis trop... Enfin, et du coup, moi, je sens aussi en tant que troisième, ça me permet de capter aussi parfois quand il y a des choses un peu compliquées. Je suis un peu... Ah ouais, je vois ce qu'il vit.
Tu aurais un exemple?
Je pense que t'es électro, t'as tout ton install qui est prête. Et puis, au moment de tourner, il y a un truc qui ne marche pas, et là, il faut courir au camion, chercher dans un autre fly le câble ou le chouco à remplacer en vitesse. Je sais, comme électro, je me suis retrouvé une fois sur un truc où il faisait très beau, on éclairait par l'extérieur et la pluie. Et là, il faut foncer pour protéger le projecteur, ouais, le matériel. Puis même là, en l'occurrence, il était un peu abîmé. Donc, le remettre, le sécher, du coup, changer de config. Et tout ça, on est très soumis au stress. Quoi.
Ouais.
Donc, quand je vois parfois, là, en tant que troisième, les électros qui sont en train de courir, je comprends, je compatis.
C'est quoi alors un troisième assistant réel pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est ?
Je dirais que le troisième assistant réel, c'est un garde frontière à un endroit parce qu'il protège le plateau. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie donnée, c'est une vraie prérogative du troisième au plateau. Et sinon, c'est quelqu'un qui fait le lien entre les loges HMC et les comédiens, et les loges HMC, les comédiens et le plateau. C'est-à-dire que le matin, moi, je suis aux loges pour accueillir les comédiens, essayer d'organiser pour le comédien passe à chaque poste. Et ensuite, une fois que la préparation est finie, pouvoir l'accompagner sur le plateau. Et là, se déclenche là, le côté garde-frontière, tout en étant dans le soin pour le comédien. Mais voilà, c'est ça, okay. Essentiellement.
On va aller un peu plus dans le détail. Est-ce que tu peux très vite fait me rappeler qu'est-ce que c'est premier et deuxième assistant ?
Ouais.
Et pourquoi il y a besoin du coup d'un troisième ?
Alors le premier assistant, il est vraiment auprès du réalisateur ou de la réalisatrice. Voilà, lui ou elle s'occupe de l'organisation des journées et en lien avec tous les chefs de poste pour permettre de coordonner la journée et qu'on avance. Quoi. Globalement, c'est ça. Et puis qui nous délègue ensuite au second et au troisième les tâches à faire. En fonction de la journée qu'on fait et les séquences qu'on tourne. Le second, c'est le poste un peu ambivalent parce qu'il y a une partie au tournage où là, il est en soutien du premier ou de la première. Il a toujours un côté d'anticipation de la prochaine séquence, le prochain plan. Donc, faire en sorte que tout puisse se coordonner de la meilleure manière possible pour faire ce qu'on a à faire. Et en même temps, et il gère la figuration aussi quand il y a de la figuration. Et en même temps, il y a tout le volet bureau de préparer la feuille de service pour le lendemain. Donc, le document qui nous permet de savoir en détail le contenu de la journée. Et il y a un côté aussi très management aussi, quand même, pour côté troisième. Et puis moi, le troisième, ouais, je suis côté loge, les comédiens. Bah, c'est important d'avoir ces trois postes pour... c'est quand même un peu un escargot, quoi, du centre jusqu'à la périphérie, qui est toujours un endroit où il y a quelqu'un à la mise en scène qui puisse gérer et répondre aux questions des techniciens qui travaillent avec nous. Quoi.
Est-ce que tu peux m'expliquer, si on prend un projet, n'importe lequel, il peut être fictif ou réel, comme tu veux, du début à la fin, où est-ce que toi, tu te places ? Qui c'est qui t'appelle pour être sur le tournage, par exemple ? Est-ce que tu es là en prépa ? Comment se passent tes journées de tournage ? Est-ce que tu es là en post-production ?
Alors moi, souvent, si on m'appelle, c'est parce qu'il y a un second... c'est un second ou un premier qui fait appel à moi pour les projets. Et puis, si je suis dispo... que je fais partie de la région aussi, parce que souvent, le troisième, on choisit un troisième parce qu'il appartient à la région dans laquelle on tourne, parce que les productions jouent le jeu des subventions aussi régionales. Mais moi, pour le coup, j'ai eu de la chance de ne pas trop avoir été soumis à ces décisions pour être choisi. C'est surtout parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec une première qui avait confiance et qui m'a fait... venir à chaque fois sur ces projets. Et ensuite, en général, j'ai de la prépa. Moi, je commence au moment des rencontres avec les comédiens pour pouvoir être là en soutien avec le réalisateur ou la réalisatrice voilà, être là et avoir un premier contact avec les comédiens, parce que je vais les, enfin, être avec eux une bonne partie du tournage. Et ensuite, et aussi pendant les essais, costumes, par exemple, ça peut arriver qu'on me demande d'être présent, voilà, histoire de, d'être là, de récolter des informations qui pourront servir aussi pendant la prépa. Et puis, ce temps de prépa, il me sert aussi à préparer des documents, enfin, d'être en soutien de ce du second et du premier s'il y a besoin de, voilà, de faire des tâches particulières. Mais moi, c'est aussi un moment où je prépare mes jours à jour. Donc ça, c'est les textes des comédiens, enfin, le texte des séquences jour par jour pour les comédiens. Et c'est un document hyper important parce que ça permet aux comédiens et aux techniciens de savoir que telle journée, c'est ce texte-là et de se focus sur ça. Et ensuite, ben, au tournage, ouais, moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais le premier transport des comédiens le matin, ce qui me permet d'arriver aux loges le premier, d'ouvrir les loges avec l'habillage, le maquillage et la coiffure, enfin, les chefs de poste. Là, en général, c'est, moi, j'adore parce que c'est le petit moment où, pour commencer en douceur, on a un peu un brief, donc ce qui permet de se mettre tranquillement dans la journée. Et puis, c'est toujours un très bon moment, je trouve, les loges. Il y a un truc très, très cool, un peu en dehors du tournage, qui fait vachement du bien. Et puis après, au plateau, là, quand je parle de garde-frontière, c'est qu'on fait en sorte de protéger le plateau de dérangement extérieur. Donc moi, je sais que je peux, on peut me demander de faire du blocage, par exemple, le relais des silences aussi, pour être sûr voilà, qu'on ne vienne pas perturber aussi au son les prises qui peuvent être faites. Moi, je sais aussi, oui, si je suis un peu garant des documents de tournage qu'on peut avoir, donc la feuille, le découpage. Le jour à jour, donc moi j'ai toujours mon petit tote bag sur l'épaule, prêt à dégainer si quelqu'un a perdu ou quoi, ou s'il manque voilà, des documents. Et aussi, bah, par exemple, entre les prises, s'il y a un changement de plan, d'avertir les chefs de poste au HMC que voilà, on change de plan, s'il y a besoin de raccord, de prévenir aussi premier et second par toki que là on a des raccords et que avant de lancer la prise, pour que chacun puisse aussi faire son travail de la manière la plus sereine, enfin d'avoir le temps, quoi, de permettre aux gens d'avoir le temps.
Déjà, quand tu parles de comédiens, c'est absolument tous les comédiens du tournage, ou c'est que des premiers rôles, des seconds, des silhouettes, de la figure
Pour le coup, moi, je me suis toujours occupé de tous les comédiens, enfin des rôles, ouais, principaux. Et quand ils sont moins nombreux, je m'occupe aussi des silhouettes et de la figure. C'est-à-dire là, essentiellement, m'assurer qu'ils sont là à l'heure, voilà, de venir un peu donner le jour à jour, par exemple, enfin, le mettre à disposition pour qu'ils puissent le check. Et puis, voilà, de voir avec l'habillage si c'est bon, s'ils sont prêts. Comme ça me permet de prévenir le second ou la seconde. Voilà, c'est bon, ils sont prêts, tu peux venir les briefer si tu veux pour la suite. Parce qu'en général, en plus, on fait venir la figure un peu avant sur le plateau, s'il y a des mises en place à faire, tout ça. Donc ça, ouais, ça m'arrive. Et c'est cool aussi parce que, en général, les figurants, c'est des gens comme nous, quoi. Enfin, c'est pas toujours des comédiens professionnels. C'est aussi des gens juste qui sont passionnés ou qui voient qu'il y a ça dans la région et du coup, ils en profitent. Et puis, ouais, les comédiens, bah, du rôle principal au second rôle, enfin de voilà, de, ou même d'un comédien qui va venir qu'une journée, bah ouais, je suis avec tout le monde, quoi.
Ok. Comment tu te présentes aux gens
Dans la vie en général?
Non, aux comédiens.
Aux comédiens, bah, bah, je dis que je suis Barthélémy, troisième assistant mise en scène. Bah, en général, bon, ils savent. Le comédien, c'est ce que je suis dans le tournage, quoi. Mm-hmm. Je pense que c'est assez évident puisqu'il y a, bah, moi, je suis tout le temps, enfin le troisième, la troisième est toujours avec les comédiens, j'ai pas beaucoup besoin de leur expliquer ce que je fais.
Comment tu fais pour qu'ils se sentent bien avec toi, qu'ils aient confiance en toi?
Bah, je pense que bah, le rapport que j'instaure avec les comédiens, enfin, je sais pas vraiment si je l'instaure, mais c'est la confiance. C'est vraiment, c'est des êtres humains comme nous qui ont exactement les mêmes besoins que nous, et je pense que j'essaye de juste leur laisser la liberté, enfin, qu'ils se sentent libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est quand même un métier. Enfin, moi, j'adore le métier de comédien. C'est-à-dire un truc où je pense que c'est le plus beau métier du monde. Et vraiment, quand je dis ça, c'est, je le pense sincèrement, parce que c'est des techniciens de l'émotion et du corps. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le poste de troisième, parce que je trouve que j'ai vraiment une place privilégiée pour les regarder travailler. Et du coup, enfin, je pense que ça, ça se sent, en vrai. Donc, je sais que dans les rapports, il y a toujours quelque chose de très évident. Enfin, je pense que bon, je pense être quelqu'un de bienveillant par nature, mais là, en plus, il y a une vraie envie, quand je rencontre des nouveaux comédiens, de les mettre à l'aise. Et ça, ça... Ouais, ça passe par ce truc de confiance, de je vais pas les embêter, je suis pas là pour les fliquer, je suis juste là pour essayer de répondre au mieux à leurs demandes avec les moyens et les outils que j'ai. C'est-à-dire que ben, quand un comédien ou une comédienne me fait une demande, et que je ne peux pas y répondre, ben je leur dis et en fait je pense, enfin j'essaye pas de les arnaquer quoi. Enfin tu vois. Il y a un truc où...
De trop les brosser dans le
ouais,
sens du
non, c'est ça. Il n'y a pas de flatterie. Non, pas de flatterie. D'ailleurs, je ne commande pas ce qu'ils font. Moi, j'aime bien regarder comment ils travaillent, comment ils se mettent au travail aussi. Ça, c'est un truc que j'adore. Mais jamais je me permettrais de venir commenter ou même complimenter. Ça m'est arrivé de le faire, mais quand vraiment il y avait quelque chose qui m'avait profondément touché. Et pour le coup, là, sur le dernier tournage que j'ai fait, je sais qu'il y a eu plein de moments où j'étais très ému par des séquences qui ont été tournées. Et il y a un moment, il y a une des comédiennes à qui j'ai fait un retour en disant que j'avais été très... là, ça m'avait vraiment touché et où je parlais un peu de ce que j'avais compris du personnage qu'elle jouait, tout ça. Et elle m'a répondu qu'elle était très touchée parce que, pour le coup, souvent, un tournage, c'est quand même assez court. Les émotions vivent très vite sur le moment. Puis après, le projet se termine, ça part en post-prod. Eux, les comédiens et comédiennes partent sur autre chose, donc vivent autre chose. Et finalement, cette émotion-là, quand le projet sort et est diffusé, que ce soit au ciné ou à la télé, il y a... C'est bizarre, cette émotion, c'est jamais la même. Donc là, le fait de venir la voir en lui disant ce que j'avais éprouvé, elle était contente parce qu'elle se disait oh, bah alors, il y a quand même une émotion qui se crée vraiment sur le moment. Et c'est important parfois de sentir qu'il y a bien quelque chose qui se passe et que c'est pas juste abstrait, quoi.
Est-ce que le fait d'avoir fait le conservatoire, ça t'aide à comprendre les comédiens, ce qui te traverse, peut-être?
Je pense, ouais. Parce que pour le coup, quand je jouais, moi, je savais que par moments, c'est presque pas rationnel, mais ce truc d'avoir besoin d'être tout seul, par exemple, de s'isoler pour se concentrer, pour se mettre un peu dans sa bulle, qu'on joue de la comédie ou du drame, d'ailleurs, ce truc d'avoir besoin d'un temps à soi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, et du coup, je pense que... Je sais que j'ai toujours du mal avec d'autres techniciens ou même à la mise en scène d'ailleurs qui peuvent dire que les comédiens sont chiants, ils sont un peu capricieux. Moi, pour le coup, je suis toujours un peu non, en fait, juste ils se concentrent. Un comédien, moi, je trouve que c'est compliqué. On t'attend beaucoup, on te demande à l'instant de sortir d'émotion, puis il faut que tu sois juste, précis. Pour peu qu'il y ait un déplacement, il faut aussi que dans le corps, t'aies repéré que la lumière est là, que t'as une marque là, et une deuxième trois pas plus tard. Et tout ça doit, en paraissant le plus naturel possible. Et je pense que pour l'avoir du coup un peu éprouvé, mais c'est comme je disais tout à l'heure aussi, enfin sur le fait d'avoir été électro assistant cam, auxiliaire à la régie, ben je pense que j'ai une plus grande empathie et puis une vraie envie que les comédiens se sentent bien, parce que je pense que quand t'as enfin le talent, il s'explique pas. Moi, je trouve que le talent, il y a quelque chose d'un peu irrationnel aussi là-dedans, mais par contre, je pense que quand le comédien et une comédienne est hyper à l'aise, c'est là que le talent peut s'exprimer fois mille, quoi, et qu'il y a des choses grandioses qui peuvent se passer. Et moi, je crois que je suis friand de ça, quoi, d'assister à ça. Mais même à un autre endroit, je sais que sur le dernier projet, il y a un comédien qui devait faire un cadavre. C'était sur la plage, C'était un matin, il faisait froid. Moi, je restais beaucoup avec lui, quoi, parce que là, pour le coup, il y avait pas grand-chose à jouer, on pourrait dire. C'était surtout être là. Mais là, au vu de tout ce que le HMC avait fait en termes de patine sur le costume, le maquillage, c'était incroyable. Moi, j'aime beaucoup aussi regarder Horloge, ce qui peut se préparer, mais ça fait partie de la prépa du comédien, quoi. Moi, je suis assez fan de ça. Mais là, je prenais un vrai plaisir aussi d'être à côté de ce comédien, de faire attention à ce qu'il se sente bien, parce que c'était des conditions très compliquées. Et puis, en fait, aussi de comment dire, protéger d'une certaine manière le travail des chefs de poste HMC, quoi, parce que y avait un vrai taf qui était ouf, quoi. Donc, ouais.
Ça doit être dur de trouver le juste milieu, justement. On parlait de flatterie, tu vois. On parle souvent, oui, il faut protéger les comédiens, il faut les mettre dans leur petite bulle, etc. Moi, je suis assez intimement persuadée que sur des tournages, on fait partie de l'équipe en tant que comédien. Qu'on est aussi des techniciens, on fait partie du film, quoi, tu vois.
Ouais.
Est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, d'être autant surprotégé, d'être autant mis dans cette petite bulle dont les gens parlent? Je dis pas que c'est ce que tu es en train de dire. Hein.
Ouais.
Je te dis juste. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Quoi. Il faut faire attention à eux, il faut leur proposer du café, il faut. Est-ce que machin.
Moi, je pars du principe que si je propose un comédien et qu'on me dit non, je fais pas. Enfin, au début, je fais pour un peu essayer de capter quelles sont les envies, les besoins. Il y a aussi, chaque comédienne est différent, n'a pas les mêmes besoins. Et aussi, en fonction des journées, un comédien qui vient pour une séquence, un plan, va pas forcément avoir le même besoin à ce moment-là que sa partenaire de jeu qui va être là toute la journée avec des séquences un peu plus compliquées. Donc ça, moi, j'essaie de m'adapter. Au début, moi, j'ai tendance à un peu le faire, ce côté de... Je suis quand même un peu derrière.
T'observes, en fait.
Ouais, et le fait d'être capable de capter les besoins et d'être d'être le plus...
Juste.
Ouais, c'est ça. Moi, un comédien qui me dit « T'as pas besoin, j'ai envie d'aller à pied au plateau, j'ai pas envie de ça, je le laisse, en fait. Vraiment, je n'insiste pas. Et après, moi, je deal avec la mise en scène derrière mes supérieurs hiérarchiques. J'essaie aussi d'expliquer parce que souvent, en fait, ce dont tu parles là, de la bulle de surprotégée, c'est nos chefs de poste qui nous demandent d'être comme ça, d'avoir cette attention là pour les comédiens. Parce que c'est pas les comédiens. La vérité, c'est pas les comédiens qui demandent. À part peut-être des très très grands comédiens, ou plus âgés, et encore, je pense pas. Mais moi, je pars du principe que cette partie-là fait partie de mes prérogatives et que si on me choisit pour être dans l'équipe mise en scène, c'est qu'on fait confiance à la manière dont, de la manière dont je travaille. Je pense que là, c'est ce que tu nommes là sur le fait que le comédien est aussi un technicien et qui fait partie de l'équipe. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est pour le coup, je pense qu'on les met un peu à part quand même,
ouais.
D'une certaine manière. Et ça, je sais pas trop comment on pourrait résoudre la chose de les faire appartenir à la grande famille des techniciens. Moi, je pense que ça vient du fait qu'ils travaillent avec eux, quoi. Qu'il y a un truc de... Les comédiens et comédiennes, vous êtes votre propre outil. J'essaie d'avoir un truc de... Oui, pour protéger dans le cas de... Même quand tu tombes dans des conditions compliquées, sous la pluie, tout ça, je savais, moi, le parapluie... Mais après, c'est aussi parce que au HMC, si tu protèges pas les cheveux des comédiens... ça nique la coiffure, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est même très dommage. Mais du coup, je pense qu'il y a, y a quelque chose d'ambivalent. Mais moi, je pense qu'il faudrait en venir quand même à changer notre regard sur les comédiens. En fait, peut-être juste simplement les voir comme des personnes normales.
Ouais.
Et moi, pour le coup, ça, je pense que je le fais. Je les mets pas sur un piédestal.
Ouais. J'ai l'impression que c'est les seules personnes du plateau où t'as la mise en scène qui veut absolument savoir où ils sont à chaque instant. Oui. Quoi.
De ouf.
Comment tu fais pour pas être leur ombre, tu vois? Parce que je veux dire, en électro, tu passes pas ton temps à faire oh, il est où
Mais de ouf.
Telle personne, en fait, je veux savoir où il est.
Ouais. Non, bah, moi, pour le coup, ça m'est arrivé plein de fois d'être avec des comédiens qui veulent faire leur vie et qui me signifient que. Ils n'ont pas envie d'être fliqués. Ah ben moi, c'est principe de confiance, c'est-à-dire que ben, je sais pas, la pause déjeuner, il a pas envie de, ou elle a pas envie de venir à la cantine. Eh ben c'est ok, ben nous la reprise c'est à telle heure, faut que tu repasses aux loges parce que t'as un raccord ou un changement de costume ou quoi. Et du coup, on se met d'accord. Si ça se réitère, ben là je déclenche au-dessus parce que. Mmh. Mais en vrai, c'est jamais arrivé quoi. Enfin, à chaque fois, moi je. Ils jouaient le jeu. Parce que enfin, les comédiens sont des techniciens, donc ils savent aussi que, enfin, ils sont indispensables à ce que la journée se fasse.
Ils sont autonomes aussi, quand même. Hein? Ils sont autonomes
bah,
aussi.
Bah, ils sont autonomes, puis je veux dire, ils ont une conscience professionnelle. Enfin, il n'y a pas que les techniciens qu'on ça. Donc,
Est-ce que tu es présent aussi quand, par exemple, je ne sais pas, il y a une scène un peu difficile à tourner et que tu as un comédien, une comédienne qui est complètement en panique? Personne semble pouvoir.
Ben, ça peut arriver. Alors, en général, au plateau, pas trop. Moi, ça m'est plus arrivé après, ouais. En mode un relâchement, et puis la comédienne qui est pas bien du tout. Et là, je me suis retrouvé là, et puis ben, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. Après, moi, je sais que sur plateau, si je peux être au top pour donner un top au départ, donc là, si je sens qu'il y a des choses, moi, j'essaie de garantir toujours cette espèce d'espace pour que le comédien ou la comédienne soit dans la meilleure condition pour se lancer, quoi. Mais moi, ce que je remarque souvent, c'est plutôt les personnes qui travaillent au HMC qui ont cette place-là de pouvoir aller auprès, pendant les raccords notamment. C'est vraiment le moment privilégié de venir aller choper une petite information. Et moi, j'ai aussi, pour le coup, des fois, des personnes au maquillage ou à la coiffure qui sont venues après me dire bah, « Tiens, tu prépareras ça pour la suite parce que j'ai besoin que ce soit un thé ou je sais pas, ou d'aller chercher quelque chose aux loges en rapide dans le sac à main parce que c'est important, il y a eu un oubli. » Enfin, voilà, ça, c'est déjà arrivé. Mais pour le coup, ça, par expérience, j'ai quand même remarqué que c'est plutôt le HMC qui est privilégié à cet endroit-là, ce que je trouve très, très juste. Et moi, je me mets juste en assistant aussi du HMC pour récolter. Et puis s'il y a vraiment un truc important, si moi j'aime bien quand même savoir, parce que moi j'aime bien aussi le faire remonter au premier ou à la première, si vraiment je considère que bah là il y a un truc un peu grave et qui, enfin voilà quoi, ou même au réal si quand j'ai un bon rapport avec les réals, je me permets aussi de venir le dire. Mais ça par exemple le matin, le fait de faire le premier transport du comédien, ça j'aime bien parce que je prends le mood dans la voiture. Enfin en général on discute toujours et quand il y a un truc qui va pas, mal dormi ou quoi, ça, c'est des trucs que j'aime bien faire remonter au réal, parce que ça permet lui aussi ou elle d'adapter le lancement de la journée et l'énergie. J'aime bien.
Ici, on s'intéresse pas mal à la figuration, au traitement en fait, des figurants. On a pas mal parlé dans ce podcast. On a capté que très souvent, les conditions de la figuration, elles sont juste terrible. Le temps d'attente, les conditions dans lesquelles ils sont mis, on demande à des gens de se changer devant un peu plein d'autres gens, en fait, par exemple dans des loges, parce que les loges sont trop petites pour eux. Enfin, parce qu'en tout cas, les espaces ne sont pas toujours bien construits pour. On a eu des choses où, par exemple, on a pu avoir des figurants qui étaient sans eau, par exemple, pendant des heures et des heures, parce que il faut qu'ils restent là, sur le plateau. Pour on ne sait quelle raison. Comment est-ce que tu gères tout ça, toute cette, parce que très souvent ce qu'on entend c'est un peu la figure c'est du bétail, on en fait un petit peu ce qu'on veut, on les traite pas vraiment comme des humains, un peu plus comme des objets qu'on place par-ci par-là. Comment est-ce que tu arrives à remettre de l'humain dans tout ça, à les défendre aussi si tu peux?
Moi je sais que j'aime bien m'intéresser aux gens de manière générale, donc je sais que pour le coup, j'ai toujours réussi à créer des liens un peu avec des figurants. Et ce qui est très cool, c'est quand sur des projets, on a des figurants qui reviennent régulièrement. Ça, c'est arrivé sur un projet que j'ai fait en fin d'année dernière, où c'était quasiment tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc à la fin, là, pour le coup, je pense que pour eux, il y avait quelque chose d'un peu plus idéal. Parce que c'est, quand tu viens 20 jours, tu as une place très particulière dans le projet. Pour le reste, là, c'est sûr, tout ce que tu viens de nommer, je le vois. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Moi, je sais que j'essaye dans le côté défense. Moi, je sais qu'à ma place, j'essaie souvent de faire le relais du HMC et surtout des personnes à l'habillage qui s'occupent de la figure, de faire un relais, de vraiment demander est-ce qu'on peut libérer ou au moins une partie ou quoi. Enfin, je sais quand il y a un vrai temps d'attente et que là, il y a l'impression à la feuille que on va pas avoir besoin, ou que le découpage va juste être sur les deux derniers plans, ça va être un champ contre champ. Est-ce qu'on a vraiment besoin là s'il y a des millions derrière d'avoir 50 figurants, on sait jamais dans ces proportions, heureusement, mais encore que ça peut arriver, ce truc de... En fait, c'est trouver le juste milieu tout pourrait changer d'un coup et être sûr de se backuper. Je sais qu'à la mise en scène, il y a une vraie envie de toujours avoir les ressources pour pouvoir faire s'il y a un changement de dernière minute, qu'en fait, ce qui était prévu... À la base, ça change. Notamment le côté, on avait une séquence découpée, puis en fait, finalement, ça devient un plan séquence. Ouais. La figure nous aide beaucoup. Mais ça, moi, pour le coup, je pense quand même que travailler avec des équipes qui ont conscience que la figuration est d'une aide précieuse. Enfin, on ne ferait rien sans eux. Mais après, ça, c'est des jolies phrases. Et en acte, et c'est vrai que ça change rien au fait que ils attendent. Je sais pas comment on pourrait revaloriser ce rôle-là autrement que pécunier, parce que ça c'est une chose, mais il y a aussi la valeur humaine. Ouais. Moi je pense que ça passe beaucoup aussi peut-être par le réal ou la réal de vouloir vraiment les considérer. Parce que c'est vrai qu'en plus quand t'as juste affaire à des intermédiaires, le second ou la chargée de figure ou quoi, je pense que tu peux être un peu laissé de côté. Mais moi, je sais qu'à Réal, elle est avec qui j'ai bossé sur deux projets. Moi, j'adore sa manière de convoquer les figurants. Il prend comme faisant partie intégrante du projet et il les stimule vachement. Il leur dit quoi faire. Et ça, je trouve ça très cool.
Il les prend en compte, en fait.
Ouais, de ouf. Ouais. Et ça, c'est pas toujours le cas des Réal. Et je pense que là, c'est peut-être à eux, les réalisateurs et réalisatrices, de peut-être. T'as besoin de figurants sur ta séquence là, en fait, prépare-la. Enfin, pense-y aussi. En plus, ça viendrait aider le second ou la seconde, parce que franchement, c'est pas facile de placer de la figure. Enfin, je veux dire, tu peux avoir des idées en fonction d'un décor ou quoi. Enfin, tu lis ton jour à jour, tu comprends un peu, tu captes c'est quoi ce qu'il faut jouer, mais c'est aussi avec l'image, tout ça. Mais je pense que les réels devraient être un peu plus. S'investir un peu plus, peut-être. Mmh. Ça pourrait être une première étape. Parce qu'en plus, en voyant que le réel s'y intéresse, peut-être que toute la sphère de la production autour se dirait attends, mais en fait, c'est des vrais gens dont on a besoin, quoi. Mmh. Ouais, parce que c'est un besoin. On a besoin de la figuration. On ne ferait pas sans. Et si un jour, plus personne ne voudrait faire de figure, on serait bien, bien, bien embêté.
Ouais.
Ou alors, un autre truc, peut-être, je crois aux États-Unis, c'est un peu plus structuré. Pour le coup, je crois, les figurants, il y a vraiment des agences ou quoi, peut-être en venir à ça, quoi, pour aussi protéger, les protéger. Faire respecter le droit du travail, tout ça. Ouais.
Non, mais c'est clair. Que ce soit respecté pour tout le monde aussi.
Ouais.
Ouais, c'est clair. Oui, peut-être que ça peut passer par le réel. Moi, je me dis peut-être que si tout le monde fait un petit effort sur plein de choses, ça peut être bien, quoi. C'est vrai qu'une fois j'avais vu un réel, juste c'est très bête, hein, ça va paraître hyper simple, mais dire bonjour aux figurants. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bon, aujourd'hui on va faire ça, ça va être super. Bonne journée, à tout à l'heure. En fait, c'est bête, mais personne fait ça. Pratiquement, quoi.
Ouais.
Et c'est bête, mais en fait, tu te sens intégré et t'as envie de faire quelque chose. Enfin, je pense, quand t'es figuré, que t'as un réel qui vient de te voir, tu dis j'ai envie de donner de ma personne aussi pour faire quelque chose.
Mais surtout que moi, ce que j'ai remarqué, quand même, les figurants sont souvent peuvent être très très aidants aussi. Et parfois, t'as pas d'idée. Moi, ça m'est arrivé en backup de faire du placement de figure. Où j'étais un peu paniqué les premières fois, je savais pas et tout. Et en fait, là, on te dit, bah, si tu veux, je peux faire ça. Et là, tu dis, ah bah ouais, en vrai, très bonne idée. Et puis après, tu pourras aller là. Et puis en fait, ça se fait aussi de ce qu'ils suggèrent. Et donc en fait, c'est pas juste des gens passifs qu'on place à un endroit en leur disant tout ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est pas ça du tout. Donc, ouais.
En plus, avec la conjoncture actuelle, il y a quand même énormément de comédiens, de techniciens qui font de la figure maintenant pour faire leurs heures. Donc, je me dis, c'est intéressant que les gens voient en fait ce qui est en train de se passer pour la figure. Et je me dis, bah, après, c'est peut-être des gens avec qui on est amené à bosser. Donc, toi, si ces personnes-là te voient les autres être maltraitants, etc. Enfin, je vais peut-être réfléchir à deux fois avant de travailler avec cette personne. Je vais bien retenir son prénom. Tu disais que tu voulais devenir second. Est-ce que toi, ton top du top métier, c'est second, ou est-ce que tu veux être premier, réel? Tu es déjà réel, mais...
réel. Là, je vais réaliser mon premier cours, donc je me dis que ça va être après ça, là. Après dimanche, que je vais vraiment me sentir réel, mais ça, c'est vraiment ce que je vise au bout, hein, être auteur, réalisateur. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais là, pour le coup, en tant qu'assistant, je pense que je me suis trouvé aussi un job très cool pour observer. Et pour le coup, second, c'est, comment dire, très... Enfin, je trouve que c'est un des métiers les plus horribles dans notre, dans notre milieu, vraiment. Okay. Tout poste, enfin, tout département confondu. Vraiment, je le trouve hyper dur. Mais je crois que... Bon, ça, les personnes avec qui je travaille me l'ont dit. Et moi, je pense que je commence à sentir que l'uniforme de troisième est un peu petit. Ouais. Pour moi, parce que l'expérience que j'ai acquise là me permet aussi d'avoir une vision assez large de comment fonctionne un plateau. Et il y a des choses où j'aimerais avoir, j'aimerais agir plus, quoi. Et c'est fou, mais le poste qu'on a parfois empêche d'avoir
De changer les choses.
Ouais, de changer les choses. Ouais. Et ça, c'est un endroit frustrant. Et du coup, je me dis que j'ai envie de passer second pour pouvoir peser un peu plus quand. Surtout là, quand on sait que là, il y a un truc qui va pas et que tu as la solution. Et qu'en fait, on te laisse pas la marge de manœuvre pour agir. Je crois qu'à un endroit, ça me donne envie de passer à la suite. Mais après, moi, j'espère aussi très vite, le plus rapidement possible, passer réel. Où là, en plus, je sens que. Réal, tu réunis une équipe et tout de suite, dès le début, tu dis comment tu as envie que les choses se passent, quoi. Moi, j'ai pas envie de parler de différence de génération, tout comme ça. Moi, je trouve ça naze de dire, de vouloir tout expliquer ou justifier sur un conflit générationnel qui. J'ai pas envie d'alimenter ça, je trouve que c'est naze. Mais parce qu'il y a vraiment des jeunes aujourd'hui qui débarquent dans le métier qui sont pas. On ne trouve pas forcément les bons comportements ou le bon rapport. Après, on apprend tous. Mais moi, je crois vraiment que la hiérarchie est importante, mais importante comme outil de travail. Mm-hmm. Moi, ça, c'est un truc que je répète continuellement, c'est que moi, je ne vois pas la hiérarchie, donc là, premier, deuxième, troisième à la mise en scène, autrement comme un outil de travail qui permet de définir des prérogatives à chacun, à chacune, pour que ça fonctionne de la manière la plus fluide et cohérente possible. Mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans l'humain. Et ce qui est dérangeant aujourd'hui, c'est les gens qui considèrent que la position qu'ils occupent dans cette hiérarchie outil de travail, elle s'applique aussi à l'humain, quoi. Et se faire mal parler, par exemple, enfin, ça, c'est des trucs, je trouve ça naze. Et en fait, je dis ça, mais moi, je parle mal aussi parfois. Mais je le fais souvent quand même sur un truc de défensive. Et ça, j'aimerais vraiment... C'est un truc que je veux vraiment corriger, pour le coup. Vraiment sur des trucs... mais parce que c'est pas possible, quoi. Et il y a une espèce de facilité dans nos milieux à dire « Ouais, non, mais tu comprends, parce que... » Enfin, il y a toujours une bonne excuse. Mais sur des trucs, non, quoi. Et le respect, tout ça, enfin, je sais pas. Un truc où... Je ne sais pas si chaque génération dit qui fera le changement, mais moi, pour le coup, j'y crois. Parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, la prise en considération voilà, des paroles de chacun, enfin, là, je pense qu'on va y venir, vraiment. Ouais. Les choses vont changer.
Justement, là, on est donc en 2025. Quand tu dois faire un tournage, tu es obligé de suivre une formation prévention, harcèlement, sexité, sexuel et moraux sur les tournages. Est-ce que t'as eu l'occasion de suivre déjà ces formations ou pas du tout?
Non, pas encore, mais là, je me suis inscrit justement pour la faire soit le mois prochain, soit en juin, parce que moi, je veux devenir référent en plus.
Ouais.
Et donc, non, j'ai pas fait la formation encore, mais j'ai très, très hâte de faire mes deux jours en présentiel. Là. Ouais.
Tu fais avec qui?
J'ai l'atelier Marcel.
Super. Ça sent génial, tu vois. Okay. On les a reçus ici sur le podcast et j'ai fait leur formation l'année dernière. C'était très bien.
Ok. Ouais.
Non, on apprend vraiment plein de choses et c'est cool. Enfin, on peut mettre des mots sur les choses et ça, je trouve ça vraiment indispensable.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu affaire à une coach d'intimité sur les tournages?
Ouais, ça m'est arrivé sur l'avant-dernier projet et là aussi, moi, sur mon cours, pour le coup.
Ah, trop bien.
Ouais, où j'avais demandé, enfin, j'ai de suite demandé à ce qu'on ait quelqu'un parce que j'ai une scène d'agression donc, sexuelle. Donc, c'était une évidence pour moi, de toute façon. Et moi, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant. Quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma en fiction, c'était un poste qui arrivait. Donc, moi, je n'ai pas connu le avant sans. Mais de toute façon, en fait, je me dis, je ne comprends pas comment on pouvait faire avant sans. D'ailleurs, je ne comprends pas les réels hommes ou femmes ou les prods qui se disent que ce n'est pas utile. Important. Ouais, que ce n'est pas utile. Mais même, moi, là, pour le coup, sur mon cours, j'en ai pas reparlé après avec un de mes comédiens, mais il y a un de mes comédiens qui était en mode moi, de toute façon, je suis très à l'aise. Et qui racontait, parce que là, notre coordinatrice d'intimité demandait s'ils avaient déjà travaillé avec ou pas. Et du coup, il y en a un de mes comédiens qui dit moi, j'ai déjà eu. Je travaillais sur une série, il y avait une scène d'orgie dans laquelle j'étais silhouette ou figurant et tout. Et donc, ce truc. Mais bon, moi, franchement, c'était pas utile pour moi parce que je suis très, très à l'aise, tout ça. Et après coup, sur le coup, j'ai pas réagi. Puis après coup, j'ai pensé au truc et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je pense que ça doit être aussi pour des personnes qui sont à l'aise parce que cette aisance-là, peut-être que d'autres vont pas la voir. Ouais. Et enfin, un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité va juste permettre de définir le cadre dans lequel tout le monde se sent à l'aise et que ce soit de manière égale. Quoi. C'est pas juste pour les personnes pas à l'aise ou pour recenser des limites, faire une chorégraphie. Enfin, c'est un travail qui est beaucoup plus large que ça. Et moi, j'avais trouvé ça trop cool de voir comment amener aussi des comédiens, là en l'occurrence des jeunes comédiens un peu frileux, de devoir faire des scènes d'intimité, de par quel mécanisme on pouvait les amener à jouer ce qu'ils avaient à jouer, mais sans que ce soit sexuel, par exemple. Mm-hmm. Juste en... L'idée, c'était de savoir ce qui était attendu par les réals et en fait, de voir au cadre ce qui fonctionnait, quoi. Et du coup, de trouver un biais pour... Et ça, pour le coup, j'ai trop aimé observer ça parce que... Je sais que dans la direction d'acteur, je fonctionne un peu comme ça parfois. Quand je sens qu'il y a un truc où les comédiens, j'arrive pas à les emmener là où j'ai envie d'aller, je passe toujours par le jeu, par un truc complètement annexe qui permet en fait juste de libérer un peu le cerveau ou le corps. Et puis après, de revenir à la scène avec cette énergie-là. Et en plus, je trouve ça trop cool parce que ça permet aux comédiens et aux comédiennes d'acquérir des outils. Et moi, je sais que je dis beaucoup ça à mes comédiens et comédiennes. Vous avez un jardin secret. Donc ça, c'est où vous venez vous nourrir de références. Et ça, c'est un truc dans lequel je ne viens pas. Vous avez aussi votre boîte à outils. Et ça, parfois, moi, j'aime bien aller regarder dans la boîte à outils du comédien ou de la comédienne pour aller, choper un truc en disant, tiens, tu sais faire ça. Faisons ça. Et comment ça peut amener dans une énergie En fait, en plus, les scènes d'intimité, les scènes d'intimité ou de violence, c'est tellement un endroit de vulnérabilité. On ne peut pas juste prendre ça de manière sous le coude, quoi.
Bien sûr. On a reçu Claire Chauchat, qui est une coordinatrice d'intimité. Je ne sais pas si elle passe avant ou après toi dans la diffusion, bien après. mais elle parle de mémoire du corps. Et qu'en fait, tu peux être, ça peut être juste traumatisant, en fait, d'avoir fait cette scène-là, même si tu t'es senti bien, etc. Mais qu'en fait, ton corps, il réagit, en fait, à ce qui s'est passé. Mmh. Et que c'était important, en fait, qu'elle soit là pour justement désacraliser un peu toutes ces choses.
Oui, et puis de reconnaître les signes, signes, des signaux aussi. Parce que parfois, tu as beau dire que tu es bien, le corps peut exprimer totalement l'inverse. Mmh. Ou parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as le corps qui semble pouvoir faire le taf. Mais en fait, c'est ça aussi, comédien n'est pas juste là pour faire le taf, quoi. C'est pas ça. Il y a quand même une émotion qui à l'arrivée, peut ressortir. Et moi, je suis jamais très friand de sentir qu'un comédien ou une comédienne est trop dans le truc. Enfin, tu vois, moi, c'est un truc qui me pose des questions parfois. C'est de dire, oh là, c'est intense, là. Est-ce que c'est vraiment le jeu ou est-ce que... Ouais. Ça déborde. Et moi, je sais que c'est un endroit qui ne m'intéresse pas.
Si je reviens au métier de troisième as, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier?
De ne pas lâcher, hein, pour le coup, de tenter. C'est une porte d'entrée, le métier de troisième assistant, comme tous les métiers de troisième. Et pour le coup, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de formation particulière pour faire mon métier, vraiment. Je pense que n'importe qui, passionné et un peu débrouillard, sensible, qui a envie, peut le faire, ou peut-être passer par un endroit avant. Et du coup, je disais tous les métiers de troisième, et je me dis troisième assistant cam, bon, il faut peut-être quand même avoir une petite, une petite formation au préalable, ou en tout cas, quelques connaissances. Mais en vrai, j'ai en train de dire, en tant qu'autodidacte, tu as fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, en vrai, d'essayer de rencontrer les bonnes personnes. Mais ça, c'est... au bon endroit au bon moment, quoi.
Tu parles de troisième as cam. On a reçu un troisième assistant cam qui nous disait que très souvent son métier était fait par des stagiaires. Est-ce que c'est le cas aussi pour les troisième as réels?
Ouais. Là, moi, j'avais envie de partir sur un film avec un premier pour juin-juillet et qui m'a dit qu'en fait la production prévoyait un stagiaire pour faire le taf de troisième.
Okay.
Bon, moi, j'ai pas du tout insisté. Je trouve que c'est ridicule, mais vraiment, c'est pas juste pour défendre me défendre moi, quoi, et mon utilité, mais c'est un vrai taf pour le coup. Enfin, ça faudrait. Je pense que les producteurs et productrices essayent aussi d'ouvrir un peu leurs yeux, et quand ils viennent sur les tournages, qu'ils regardent que on n'est pas en train de rien faire les postes les plus bas de la hiérarchie, quoi. On n'est pas dans des attentes. Et moi, comme je dis, je pense que mon métier, tout le monde pourrait le faire si t'es un peu débrouillard ou quoi. Mais bon, je sais pas, je trouve ça aussi bien d'avoir un troisième et un stagiaire pour aussi pouvoir vraiment transmettre. Moi, je sais que j'ai toujours été avec des stagiaires sur les tournages et j'adore le côté un peu transmission, pouvoir montrer les choses et donner la chance aussi. Je sais pas, je trouve que faut vraiment considérer ça vraiment, quoi.
Moi, je pense qu'il y a un côté où potentiellement c'est, je vais dire, dangereux, je sais pas si c'est le bon mot, parce que tu laisses ce métier de troisième assistant à cet endroit de stagiaire. Ça veut dire que le salaire va avec. Ça veut dire que ton métier, il n'est pas considéré à sa juste valeur, si je puis dire.
Ouais.
Le fait que, le fait que ça reste dans un endroit où troisième as réal ou as cam, ça peut être considéré comme un stagiaire pour les productions. Donc déjà, tu as toujours le salaire qui va avec. Mais c'est aussi ne pas considérer le métier comme étant vraiment utile. Et surtout, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de la pression qu'il y a sur tes épaules. Tout comme considérer que, par exemple, le premier assistant réal n'est pas un chef de poste. C'en est un. C'est un chef de poste. Il a des collaborateurs, des collaboratrices. Et c'est ses seconds et ses troisièmes. Et les uns ne vont pas sans les autres, a priori.
Ouais.
Voilà, c'est tout. C'était vraiment... C'était pas une question. C'était vraiment une remarque. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé ici, que tu aimerais dire?
Je sais qu'à propos des... Là, on parle des référents, tout ça, moi, je crois vraiment que le changement, il arrive et qu'il ne faut pas lâcher, vraiment. Et en rappelant quand même qu'on est en France, qu'on est dans un pays de droit et avec des libertés et que c'est très cool. Franchement, on a de la chance de pouvoir vivre ces choses-là, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans nos métiers. Mais il y a aussi, là, ce qu'on fait apparaître, c'est un espace qui n'existait pas avant où, quand ça va moins bien, quand il y a quelque chose qui se passe qui est compliqué, il y a du coup maintenant un espace où on peut aller parler, où on peut exprimer ce qui ne va pas. Et moi, je voulais juste rappeler que ces deux espaces de liberté où on peut vivre les choses et faire en soi ce qu'on a envie, il n'est pas opposé à cet espace de parole. Et ces deux espaces-là qui doivent cohabiter. Et là, je pense que ce n'est pas toujours facile. Chacun a un peu son avis sur les référents, tout ça. Et moi, j'ai pu entendre des gens qui ne sont pas forcément favorables à ce qu'il y ait des référents sur les plateaux. Moi, je veux juste rappeler que non, il faut qu'on ait des référents. Il faut qu'on garde cet espace-là. Et là, juste trouver le bon endroit pour faire cohabiter ces deux espaces de la meilleure manière qui soit. Parce que je pense que, pour le coup, je crois vraiment en la justice. Alors ça, je déborde un petit peu, mais pour moi, c'est un endroit où justement la justice, elle peut venir véritablement nous épauler en tant qu'humains, et on en a vraiment besoin de ça, pour le coup. Surtout en ce moment, j'avais juste envie de rappeler ça. Je ne sais pas si j'ai été très très clair dans le propos, parce que c'est beaucoup de concepts là, auxquels je fais appel, mais il y a un endroit où, en tout cas pour moi, c'est très sensé et très clair, que, juste pour être aussi aligné avec soi et ses valeurs.
Oui, bien sûr. C'est aussi, c'est aussi rappeler un peu aux gens dans quel espace tu te trouves, tu vois, être référent, référente. Tu vois, c'est comme ici, nous, avant de commencer l'interview, on t'a dit, tu vois, sur l'effet des services, c'est marqué qu'aucun propos raciste, discriminant, etc. ne sera toléré ici. On se le redit à l'oral.
Ouais.
Parce que, déjà, on ne se connaît pas. Et donc, ça peut être bien de se dire les choses. Mais juste aussi de rappeler que cet espace-là, où on se trouve, au-delà de la justice, au-delà du fait que ça peut être répréhensible par la loi d'avoir ce genre de propos, ce n'est pas acceptable et on ne l'acceptera pas. Et je me dis que peut-être pour des gens qui peut-être essaieraient de nous dire des dingueries ici, ça les pousse à se remettre en question peut-être. Mm. Ou à se dire, au prochain tournage, est-ce que ça ne serait pas bien de faire ça?
Et à l'inverse aussi, rajouter, parfois, sur les projets ou les plateaux, on veut aussi faire taire les gens, en fait, pour ouais. pas que ça crée de vagues et que ça puisse ralentir le projet ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas possible non plus, en fait. Il faut que les gens puissent avoir un espace pour s'exprimer, ouais. en fait. La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui, en plus, nous structure notre pays, la société qu'on veut construire depuis la Révolution française. Donc, c'est pas une idée qui est toute jeune. Hein. Après, c'est sûr, la liberté d'expression, c'est pas dire tout et n'importe quoi, ça, d'accord. Mais c'est juste avoir l'espace et la possibilité d'exprimer les choses. Et ça, moi, j'y suis assez attaché, pour le coup, parce que ouais, je vois trop de choses sur les plateaux depuis que j'ai commencé, où en fait, faut rien dire, faut prendre sur soi, et ça, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas possible du tout. Ah ouais.
Mais tu trouves la liberté quand même de dire les choses, même si on te dit, là, dis rien, là.
Ah bah moi, tout le temps. Et du coup, je sais que ça peut, parfois, je sais que... On peut me faire remarquer, mais moi, ça revient à ce truc de je suis troisième, ok, j'ai ce poste-là, mais dans la hiérarchie de l'humain, je suis égal à n'importe qui et je me laisse pas, impressionner. Et en fait, sur la forme, il faut faire attention, évidemment, on n'insulte pas les gens, on hurle pas, ça sert à rien. Et moi, je sais que sur le fond, moi, je dis, bon, j'avoue, sur la forme, parfois, faut que je travaille encore. Je sais que ça, c'est mon défaut. Et,
t'inquiète, à l'atelier Marcel, il va.
Non, mais vraiment, ça, je sais que j'ai pris un mauvais pli en commençant à la mise en scène. Et il faut que ça, je le change. Mais pour le coup, je sais que par contre, sur le fond, je suis toujours au bon endroit. Et que les réclamations ou revendications que je peux faire, elles sont légitimes. Et du coup, en vrai, je m'accroche à ça et à ce truc que je vais pas je vais pas embêter les gens, mais c'est même pas les embêter, c'est juste à un moment donné leur faire prendre conscience aussi que ils agissent pas de la bonne manière. Et pour le coup là, les stagiaires, enfin c'est aussi un vrai dossier, hein, dans nos métiers, ils sont très très mal considérés, moi je l'ai été stagiaire. Et pour le coup, notamment quand j'étais électro, j'ai commencé par ça. Et j'ai eu la chance de travailler avec une chef-op qui m'a donné une vraie place. Je ne sais pas si elle se souviendrait de notre première journée de tournage. Moi, je l'ai très mal vécu parce que j'avais l'impression de ne pas être... Mais à partir du deuxième jour, elle me disait « Tu agis sur l'image, donc ta place derrière le combo, t'as ta place derrière le combo. » Et elle me montrait pourquoi elle m'avait demandé d'installer tel projecteur, comment ça influait sur l'image. Et je me sentais très pris en compte et j'ai vraiment gardé ce truc-là en me disant si j'ai des stagiaires, je vais essayer de faire cette manière-là au mieux. Alors avec parce que je suis, les journées aussi, elles ne se ressemblent pas. Il y a peut-être des journées où je vais être très avec, puis des journées où pas du tout parce que je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, j'essaye de tenir ça. Et ouais, du coup, quand je sens qu'à d'autres endroits, on vient dévaloriser... les stagiaires, parce que moi, j'ai vraiment assisté à ça, c'est dévaloriser en leur disant qu'ils ne servent à rien ou quoi. Là, moi, c'est pas possible. Enfin, je suis obligé d'intervenir. C'est le respect, quoi.
Absolument. J'ai une dernière question pour toi.
Ouais.
C'est quoi la phrase que tu entends le plus dans ton métier?
J'allais dire moteur demandé, mais je sais pas si... Ouais, je pense que c'est ça, moteur demandé.
Dans l'oreillette, entends ça souvent.
Ouais.
Enfin, dans au talkie, je veux dire.
Ouais.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Barthélémy.
Merci à vous. C'était vraiment très, très cool. Je suis ravi d'avoir participé à votre podcast.
Merci, c'est gentil. Merci à vous d'avoir écouté 507 heures. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça nous aide à être visibles et à savoir que le podcast vous plaît. Cet épisode est enregistré à la Maison des auteurs SACD par Léo Grélet, qui assiste également à la réalisation du podcast.
Le mixage est effectué par Alexandre Cacchino.
La photographe plateau, c'est Lynn A. La musique a été composée par Ilan Selouk. Le graphisme est signé Alexia Duboeuf. Et Julie Manoukian est la directrice de production. 507 heures est un podcast de l'association 507 heures et du collectif Mon Kiffé Pro.